France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le 8 juillet 2025, les députés s'apprêtent à voter la loi Duplomb, réautorisant en particulier l'acétamipride, un pesticide qui ne se contente pas de tuer les abeilles, mais est suspecté également d'être toxique pour le développement du cerveau humain. Ce 8 juillet, au balcon de l'Assemblée nationale, Fleur Breteau est en colère. « Vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir », hurle-t-elle à l'attention des groupes parlementaires de droite et d'extrême droite. Fleur Breteau est alors en chimiothérapie de son deuxième cancer. Elle a créé le collectif Cancer Colère pour faire entendre la voix des malades, victimes de ce qu'elle ne juge plus une maladie, mais une épidémie. Sa prise de parole est un des éléments qui vont déclencher une mobilisation citoyenne inédite et exceptionnelle. Le mot-clé « cancer colère » se répand sur les réseaux sociaux. Malades et anciennes malades se mettent à parler, jeunes et moins jeunes. Et le mouvement aboutit à une pétition signée par plus de 2 millions de personnes pour l'abrogation de la loi Duplomb, qui est pourtant bien votée. Mais le 7 août, au cœur de l'été, le Conseil constitutionnel en retoque une partie. C'est une victoire, mais pas suffisante, disent les militantes qui poursuivent leur combat. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on fait connaissance avec l'une d'entre elles, une femme qui appartient au collectif Cancer Colère et raconte son parcours. Elle s'appelle Nancy, elle a 36 ans et habite près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Et c'est un reportage de Martine Abad.
Ça, c'est le compte-rendu du chirurgien qui m'a opéré. Cher confrère, j'ai reçu en consultation d'annonce de résultats le 17 juillet 2025. Votre patiente, Madame Nancy, âgée de 36 ans. Comme prévu, elle a été opérée par ma collègue le 26 juin après chimiothérapie néoadjuvante. Vous trouverez 6 juin le compte-rendu opératoire ainsi que le compte-rendu anatomopathologique qui retrouve un carcinome infiltrant bifocal résiduel. Voilà. Je fais partie d'un club de marche et le dimanche, c'était le 2 décembre. Nous sommes allés marcher et en rentrant, je me suis déshabillée pour me laver et j'ai constaté une rétraction mamelonnaire, donc le téton qui était rentré. J'ai regardé sur internet et donc c'était soit un problème génétique qu'on a depuis la naissance, soit cancer du sein. Je me suis dit, bon, personne dans ma famille n'a de cancer du sein, bon. Donc je vais chez le médecin du lundi, j'ai une palpation, il me dit je sens quelque chose, mais je ne saurais pas dire si c'est ça, vous êtes jeune, il n'y en a pas dans votre famille. On va faire une échographie de contrôle, mais pour se rassurer. Donc je vais sur l'île 2 jours après, donc le 4 décembre. Je ne suis pas du tout inquiète. Ma maman vit sur l'île, je lui dis, ben écoute maman, j'ai juste une échographie de contrôle à faire, pas grand chose, je la fais, et puis après on va faire les courses de Noël à deux, on va se boire un thé. Donc je fais cette échographie, et là, bon, on voit une grosse masse sombre sur l'échographie. Je vois l'œil de la radiologue qui tilte un peu et elle me dit « Bon, on va faire une mammographie de contrôle parce que je vois une masse et j'ai besoin de vérifier. » Je fais la mammographie et là, bon, elle m'a proposé de m'asseoir en disant qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Elle parle de lésions, elle parle de tout ça. Et ma mère lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est ?» Et elle dit, pour moi, c'est un cancer. Ça m'est tombé dessus d'un coup. On est allé boire un thé avec ma maman après, hein, je me souviens. Et on n'a pas parlé pendant 20 minutes. Et d'un coup, je l'ai regardé et je lui ai dit, je vais perdre du poids, c'est cool maman, j'aurais peut-être une nouvelle poitrine. Et puis j'ai commencé à en rire, ça l'a soulagée, et puis il y a eu un temps de compréhension. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de blagues sur mon cancer, J'en prenais pas conscience. J'ai l'oncologue, je lui ai dit « Oh, mais à la rentrée, je reprends le travail parce que je suis professeure de français. » Elle a ri et m'a dit « On verra. » À la chimiothérapie, donc les nausées, les vomissements, le fait d'être épuisée. Je sais même pas si « épuisée » est un mot assez fort. On est diminué, on sait plus rien faire. Et un jour, j'étais tellement épuisée, j'étais en pleurs, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit « Papa, tu peux me conduire chez le médecin ?» J'arriverai pas à me déplacer. Et mon médecin travaille à 200 mètres. Hein. Donc au centre Oscar-Lambré de Lille, il y a une très grande salle avec environ 12 ou 14 sièges et il devait y avoir 10 femmes. 70% de 50 ans et plus et les 30-40% de moins de 40 ans. Il y avait une jeune fille qui était là avec le casque. C'est impressionnant, le casque, ça évite de perdre les cheveux. Donc un casque qui refroidit la boîte crânienne, mais on ressemble à une momie quand on l'a. Tout le crâne est enrubanné. Enfin, c'est particulier. Et je voyais cette jeune fille, je me suis dit, mince, elle a à peine 20 ans, quoi. Donc 15 jours après la première chimio, j'ai commencé à perdre les cheveux, donc des touffes, donc j'ai pleuré. Hein. Alors j'avais une très grosse masse, ondulée, brune, bien italienne, et mon mari était tellement triste de me voir pleurer qu'il m'a dit bah, « Allez, je vais te raser la tête », et il a tourné ça de manière très drôle, c'est-à-dire qu'il me faisait des petits dessins. Il m'a fait l'éclair d'Harry Potter, enfin vraiment... ça allait. Les chimios ont bien fonctionné. On a pu me faire cette mastectomie partielle. Et puis donc on m'a dit, c'est bon, il n'y a plus rien. S'en est suivi la radiothérapie. Donc 25 séances de 5 minutes dans une machine plutôt sympa parce qu'il y a de la musique, on demande ce qu'on veut. Donc moi je demandais souvent du hard rock, je leur disais allez mettez-moi un petit Metallica, donc comme ça je passais 5 minutes sans bouger mais à bouger les pieds quand même un petit peu. Donc je suis un peu brûlée au niveau du cou, mais pas tant que ça. Les premières choses que je me suis dit, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un cancer ? C'est forcément de ma faute. C'est parce que je mange pas bien. Avant, je prenais le temps d'aller au marché, je faisais. Mais là, avec le travail, c'était de plus en plus compliqué. J'étais autour de 55-60 heures semaine. Donc depuis 2021, je suis professeure de lettres modernes en collège. Je suis en réseau d'éducation prioritaire. La moitié de la classe en grande difficulté. Donc on essaie de faire au mieux, d'adapter au mieux. J'ai un élève qui est autiste pour lequel il faut adapter. J'ai l'autre qui est dyslexique ou dysorthographique. Ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps. Donc je me couchais à 1h du matin, je me levais à 6h. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc là, on a pris la facilité d'acheter des plats tout préparés parce que, ben voilà, c'est tout. Moi, je mangeais sur le pouce le midi parce que je fais mon atelier théâtre avec mes élèves, donc j'ai pas le temps de manger. Donc je mange un plat préparé rapidement. Et puis ensuite, le soir, je suis dans mon bureau, je fais mes corrections, mes préparations. Parfois, mon mari ou moi, nous étions fatigués, donc on achetait des plats préparés. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être ça, ma manière de consommer. Et puis j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus, notamment avec reporters. Et à force de lire aussi des revues scientifiques, je me dis, ben non. Voilà, il y a des causes bien réelles, des pesticides, des produits qu'on met dans notre alimentation. C'est pas de ma faute, en effet, oui. Et là-dessus, j'ai réfléchi autrement. Parce que j'ai grandi dans un petit village entouré de champs. Pendant les périodes estivales, le tracteur qui passait en aspergeant plein de trucs, nous on fermait tous les volets à ce moment-là. Mais je veux dire, peut-être que ce cancer que je déclare là maintenant est dû à ma vie passée dans les champs, à glaner les pommes de terre quand j'étais petite, en fait. Je ne sais pas. Après tout, c'est possible. Là, on vit à Wany, mais pas loin, il y a, c'était Metal Europe, juste à côté. Je bois l'eau du robinet. On sait que Metal Europe a pollué. On leur a demandé de partir. Et c'est l'État, normalement, qui devait s'occuper de faire le nettoyage. Mais on n'en entend plus trop parler. Qui s'en intéresse ? Aujourd'hui, je me pose vraiment des questions sur tout. Et là, je me dis que oui, là où on vit, c'est pas top. Hein. On a un potager, mais le sol... J'ai lu qu'il y avait des pesticides dans les nuages. Donc, dans la pluie. Enfin, les PFAS qu'on retrouve dans les casseroles, partout. L'hexane dans les huiles. Il y a le cadmium dans le pain et les pâtes. Plus je cherche et plus je trouve. Et ce qui est dingue, c'est qu'on nous alerte, mais très peu de gens s'inquiètent. Il y en a tellement partout que les gens doivent être perdus. C'est vraiment ça, le problème, c'est qu'il y en a partout. Donc voilà, je fais attention à tout. Je buvais l'eau du robinet. On a acheté un filtre à gravité. J'ai changé toutes les poils avec anti-adhésif. Voilà, tout ce qui est noir et griffé. J'ai dit hop, allez, on passe à l'inox. J'avais des spatules en plastique. J'ai tout changé pour du bois, de l'inox. Maman a participé. Maman m'a aidé un peu financièrement en me disant c'est elle qui m'a acheté ma première casserole sans produit cancérigène dedans. Quelqu'un qui n'a pas de moyens, ben c'est horrible. C'est une maladie qui est vraiment inégale et injuste et qui coûte. Pendant les chimios, vraiment, je supportais plus le bruit qu'on me parle, de devoir répondre. Donc écouter la télé, c'était très fatigant, anxiogène. Je me suis dit non. J'ai laissé vraiment passer les chimios et là, j'ai commencé à remettre un pied devant la télé ou sur les réseaux à regarder. Et c'est là que j'ai vu donc la loi du plomb. De loin, en fait, je me disais... Non, ça va pas passer. Enfin, une loi comme ça peut pas passer, c'est pas possible. On parle quand même de pesticides cancérigènes. Donc, vraiment, je m'étais dit, ça passera pas. Et puis, un jour, je me lève et donc je suis sur les réseaux. Et mon algorithme fait que, forcément, je tombe sur des personnes qui défendent l'écologie et qui en parlent. Et je me suis dit, non, c'est passé. Donc, quand j'ai vu que cette loi était adoptée, j'étais en colère parce que je me dis c'est pas possible, parmi ces 316 personnes qui ont voté pour la loi du plomb, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas une qui connaisse pas une personne atteinte d'un cancer ou d'une maladie due à un pesticide, puisqu'il y a un fonds monétaire créé pour rembourser les personnes qui sont tombées malades dues au pesticide. On sait que ça existe, puisque ce fonds-là existe. C'est que l'État reconnaît quand même que les pesticides rendent malades. Mais on vote quand même des lois comme ça.
Pour 316 contre 223, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi.
Puis après, j'ai simplement fait une vidéo. Alors au début, je voulais râler en disant « manifestons ». Tous ensemble contre ça, et puis finalement j'ai pleuré, mais alors devant mon téléphone, et je me suis posé la question, est-ce que je le poste ou pas, ça va peut-être faire mal au cœur à mes proches, et puis après je me dis, après tout c'est ce que je ressens, donc voilà, j'ai posté cette vidéo en public, et puis ça s'est développé, quoi. Là je sais qu'il y a 400 000 vues par là, mais j'ai une amie qui l'a mis sur son TikTok. Au début, elle me disait Nancy, on a 150 000 vues, Nancy. Enfin, mais après, il y avait Facebook. Je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui me dépasse. Et finalement, à force de recevoir aussi par message des témoignages de gens qui étaient aussi malades, en lien avec la pollution, des pesticides, qui m'ont remercié aussi d'avoir pris la parole en disant, mais je suis exactement dans le même état que vous, là. voilà, moi aussi je suis en larmes parce que je suis malade, parce que cette loi me fait peur pour mes enfants. Et là, ma tristesse est complètement transformée en combativité. Et je me dis, voilà, tu te bats pour toi, mais tu te bats aussi pour toutes ces personnes-là. Et j'ai créé un compte Instagram où je relayais des actions à faire. Mon but premier, moi, c'était de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre les députés, contre l'État. Donc ça, on ne peut pas le faire quand on est seul. Il faut que ce soit porté par une association. Et les députés ont une immunité parlementaire. On ne peut pas porter plainte contre eux selon leur vote.
Salut à tous. Ben voilà, je fais une petite vidéo sur les réseaux, même si je déteste les réseaux. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Ça arrive des jours sans. Mais quand je vois que mon gouvernement essaie de me buter, ben ça ne peut être qu'un jour sans. Je sors de chimio. Je pense que ça se voit, j'ai 36 ans, j'ai un cancer du sein qui est arrivé d'on ne sait où. Et quand je vois qu'une loi comme celle de Duplon est adoptée, ben je me dis finalement, je ne serais pas étonnée de m'en taper un deuxième. Et ben je ne vais pas vivre longtemps, quoi. Et moi, franchement, j'aimerais vraiment bouger cette fois-ci et porter plainte contre l'État, contre l'Assemblée nationale, contre les députés, j'en sais rien. Mais si on peut tous le faire, enfin, ce serait vraiment bien, parce que ben, j'en ai marre que nos gouvernements nous tuent à petit feu, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que mon cancer vient de quelque part, que ce quelque part est accepté par les politiques actuelles et certainement des politiques depuis quelques années. Mais ce sont les choix politiques en matière d'environnement et d'agriculture qui font qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un cancer, puisqu'on parle de pesticides cancérigènes. Ça veut dire qu'on sait qu'ils les provoquent. Pour la loi Duplon, il y a énormément de scientifiques et de médecins qui ont alerté sur cette loi en disant non. Et l'acétamipride a été interdit il y a quelques années. Mais les politiciens font le choix quand même d'empoisonner leur population. Enfin voilà, on a des députés qui ne servent, je pense, que leurs intérêts personnels et qui en oublient leur mission première de représenter les Français. Et c'est pour ça que... En fait, j'ai commencé à les interpeller parce que je voyais beaucoup de gens dire « on n'oubliera pas en 2027, on n'oubliera pas ». Et je me suis dit « mais si, on oubliera ». Voilà, on avance dans la vie, on oublie. Et moi, je me suis dit « non, ben, y a une personne qui s'en souviendra, ce sera moi ». Donc je me suis dit ben, « moi, je vais interpeller les 316 députés qui ont voté pour la loi ». Je me suis mis pour objectif de leur écrire jusque 2027 à tous. Donc je vais sur le site parlementaire.fr, donc parlementaire TE2RE, et là on a tous les députés qui ont voté pour la loi Duplon, on peut aller voir leur fiche, on voit tous les votes. J'ai eu aucune réponse, c'est-à-dire qu'on me supprime ou on me bloque. Après, si tous les Français se mettent à les interpeller, ce qui serait formidable, moi, je me dis, ils ne peuvent pas bloquer tout le monde. Si d'un coup on a 1000 messages à supprimer, 1000 personnes à bloquer, ça prend du temps en plus. Voilà. Quand je vois certaines personnes parler déjà de présidentielle aujourd'hui et se dire qu'ils sont là pour sauver la France, je me dis mais non, en fait, il y a un pourcentage incalculable de députés de votre parti qui a voté pour cette loi ou pour d'autres, hein, qui font du mal aux Français.
La loi Duplon, si elle est votée, c'est un détonateur. Répandre de l'acétamipride sur 500 000 hectares en France, ça va signifier contaminer à leur insu des milliers de personnes qui vont développer des pathologies. C'est ça qu'on nous impose avec la loi Duplon.
J'ai entendu parler de Fleur Bretteau lors de son interpellation des députés à l'Assemblée nationale, quand elle a dit « vous êtes les alliés du cancer et on le fera savoir ». Et de la voir comme ça, c'est... Elle se montre telle qu'elle est parce qu'elle donne la vraie image du cancer. Je veux dire, là, on est en plein mois d'octobre. On appelle ça l'octobre rose. Limite, c'est mignon. On montre des petits dessins, c'est octobre rose, des femmes souriantes. Et le fait qu'elle se soit montrée sans cheveux, sans sourcils, sans cils, c'est un symbole fort, c'est une image très forte. Voilà. Et forcément, je me suis intéressée à elle et puis au collectif Cancer Colère. Et là, elle veut politiser le cancer dans le sens où il faut en parler de ce cancer-là. C'est plus une maladie de pas de chance ou c'est de ta faute parce que t'as fait ça. Non, non. Il y a des revues scientifiques qui parlent d'épidémie. Enfin, voilà. Alors, les chiffres, je les ai parce qu'il y a tellement de chiffres. Alors, donc, deux fois plus de cancers depuis 1990 en France. La cause de mortalité par maladie chez l'enfant, en premier, c'est le cancer. On a 6 cancers qui sont en nette progression chez 15-39 ans, de plus en plus jeunes. La France détient le record mondial du cancer du sein. Les chiffres sont réels. Cancer Colère fait bien attention à toutes les sources, donc des revues scientifiques, là c'est Santé publique, l'assurance maladie, la Cour des comptes. 433 000 nouveaux cas, donc 27 milliards dépensés par l'assurance maladie en 2023 pour traiter seulement le cancer, 27 milliards. Le cancer coûte aux patients, mais le cancer coûte à l'État. Après là, sur les pesticides... Donc la France, 7e consommateur de pesticides au monde, 39e en surface de terres agricoles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de terres qui sont empoisonnées. Et ce qui est dingue, c'est quand on sait que les créateurs de pesticides et les créateurs de chimiothérapie sont les mêmes. C'est Monsanto, Bayer, hein, ils nous vendent le poison et l'antidote. On leur donne deux fois de l'argent à ces gens-là. Donc je pense que financièrement, ils ont tout compris, c'est très rentable pour eux. Il y a eu la pétition contre la voie du plomb en juillet. Donc avec ce compte que j'avais créé, Cocktail de Chimio, j'avoue, j'ai profité du fait que j'ai une vidéo qui a été vue 500 000 fois pour poster très régulièrement, aller signer la pétition. Enfin voilà, je mettais très régulièrement en story. Alors je ne croyais pas aux pétitions. Je l'avais dit dans ma vidéo, les pétitions ça sert à rien, il faut porter plainte contre l'État. Finalement, cette pétition n'a pas servi à rien. De voir des chiffres qui grimpent, c'est encourageant. Et je mettais le chiffre en disant « Allez, et vous, vous avez signé ?» point d'interrogation en mettant le lien de la pétition. Et puis, il faut se connecter avec impots.gouv, il faut faire... Ça demande pas mal de numéros, donc les gens qui étaient en vacances ne se baladent pas, j'imagine, avec leur numéro d'imposition sur eux. Donc, d'arriver à 2 millions en me disant que c'est 2 millions de manière numérique, donc les personnes qui n'ont pas accès du tout au numérique auraient peut-être voulu aussi signer. Donc, c'est 2 millions, mais sans compter les autres. Donc, ça m'a redonné foi en l'humanité aussi. Par contre, ce qu'on m'a dit, moi, c'est en Europe, l'acétamipride, il est autorisé partout. Donc, pourquoi pas la France ? Je dis, mais c'est aux autres de faire mieux, c'est pas à nous de faire pire. Nous, on décide de ne pas empoisonner notre peuple. Voilà. Puis finalement, après, on a revu cette loi, l'acétamipride a été retiré. Bon, pour moi, c'est pas assez. De toute façon, on continue la mobilisation et on a le droit d'exiger de ne pas être empoisonné. Voilà. Donc, le 17 décembre 2024, on a acté que j'avais ce cancer-là. Donc, en janvier 2025, j'ai été mise en arrêt. Et non, je n'y suis toujours pas retournée. Je rentrerai en janvier 2026 en mi-temps thérapeutique. Parce que je serai incapable de reprendre à 100% face à des élèves, avec les préparations, les corrections, les brevets. Enfin, c'est vraiment pas possible.
Et vous leur avez parlé du cancer ?
Oui, je leur ai dit. Parce que quand je l'ai appris... Une collègue m'a vue dans les couloirs, m'a pris dans ses bras et avait les larmes aux yeux. Et je suis rentrée dans ma classe avec cette émotion-là. Et j'ai pleuré. devant mes élèves. Et je leur ai dit, pas d'inquiétude, c'est pas grave, vous aussi parfois vous pleurez, ben, je suis humaine comme vous, reprendrons le cours. J'ai prévenu mes troisièmes que j'allais être en arrêt. Donc je leur ai dit ce que j'avais. Je leur ai dit que j'avais un cancer. Alors je n'ai plus un bruit de toute l'heure. Pourtant c'était une classe qui était parfois pénible, alors très gentille mais parfois pénible parce que blablabla. Mais là non, j'ai plus un bruit. Et puis c'était le lundi de la rentrée de janvier. Je leur ai annoncé que le lendemain ce serait mon dernier jour. Voilà, parce que je ne me voyais pas ne rien leur dire, ne plus venir, enfin... J'ai toujours été honnête avec eux et je pense qu'ils sont assez grands pour comprendre. Et puis finalement, j'ai entendu un « Oh non !» Il y en a qui m'ont écrit, très beau message d'ailleurs après. Les sixièmes m'ont posé des questions. C'était « Mais vous allez mourir ?» Ou alors j'en dis non. Et j'ai des élèves qui m'ont dit « Bah madame, surtout mettez le casque pour pas perdre vos cheveux. Parce que ma maman l'a eu l'année passée. Madame, faut surtout pas boire d'alcool pendant une chimio, hein, parce que mon parrain a un cancer. » Et en fait, eux, ils se sont mis à me raconter leur vie, quoi. Et à 11 ans, déjà être touchés par cette maladie, c'est quand même fou. J'ai même un élève dont la maman a eu le cancer l'année d'avant. Il m'a dit « Vous inquiétez pas, madame, ça va aller. On s'en remet bien. Les cheveux, ça repousse. » Alors qu'il avait 11 ans. Donc, c'est fou. Je les retrouve en début janvier, à la rentrée de janvier. J'ai hâte. j'ai vraiment hâte. Parce que c'est important de me battre pour eux aussi.
C'était Cancer Colère, l'histoire de Nancy, un reportage de Martine Abbat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Je précise que le témoignage de Nancy a été soigneusement fact-checké par nos soins, comme on dit, c'est-à-dire que nous avons vérifié les chiffres et les données qu'elle avance et que vous pouvez trouver sur notre site, à la page des Pieds sur Terre, les références scientifiques à l'appui de ses propos, parfois avec de légères nuances. Merci à elle, bien sûr, à Fleur Brotteau, au collectif Cancer Colère, ainsi qu'à Christine Anzano de la documentation de Radio France. Mille pensées enfin amicales et joker en tout genre pour Livia. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Luce Mourin. Chapped and faded, kisses. Lips are chapped and faded, call my. Lips are chapped and faded, turn away. Cause I'm awful just to see. All my hair's abandoned, all my body, oh my agony. Know that I will never marry. Baby, I'm just soggy from the chemo. I'm counting down the days to go.